Bonjour. Alors, comme c'est la première fois cette année que je suis présent parmi vous, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2023. Et j'aimerais vous laisser simplement ce verset de l'apôtre Pierre qui, à la fin de sa deuxième épître, nous dit ceci, nous encourage, et qu'on peut prendre pour nous, « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une exhortation qui résume tout ce que j'aimerais ou nous souhaiter pour cette année. Grandir dans notre compréhension de la grâce, dans notre compréhension de l'œuvre de la personne de Jésus-Christ. Et de se l'approprier, parce que c'est pas juste de la connaissance, mais on voit que c'est, il y a la notion de se l'approprier, de le vivre, cette grâce bienfaisante, libératrice, qui nous met chacun en égalité devant Dieu. Il n'y en a pas un plus grand. Nous avons tous besoin de cette grâce pour avoir cette restauration avec notre Créateur. Alors oui, que cette année soit l'occasion, peut-être dit autrement, de grandir dans notre proximité. C'est l'idée de grandir dans notre intimité avec le Seigneur. On est dans le thème numéro 5. Et c'est ce que je voudrais nous proposer ce matin, d'interroger l'intimité avec Dieu. En devenant disciple du Seigneur, on a été accueilli. On a été accueilli. On a été pardonné. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu nous ouvre ses bras. Il est devenu ton sauveur. Il est devenu ton Seigneur. On avait vu déjà dans cette série que nous étions appelés à avoir une nouvelle façon de vivre, une vie qui porte du fruit, une vie centrée sur Christ, une vie pour sa gloire. D'ailleurs, comme le dit ce premier petit verset que je vous ai lu en intro. Et c'est cela aussi dans cette question de l'intimité. Ma relation avec Dieu a été rendue possible en Jésus-Christ et c'est ton bien le plus précieux. Mieux connaître Jésus-Christ doit devenir ta raison de vivre. Alors Pierre l'a dit, l'a exprimé, mais Paul aussi lui-même, Philippiens 3, il dit « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ, mon bien suprême, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. » Alors la question qui est derrière, c'est, mais qu'est-ce qui va nous aider à grandir dans notre intimité, dans notre marche avec Dieu? Alors, de façon simple, peut-être un peu naturelle, quand on côtoie une église, on va dire, peut-être prenez plus de temps pour lire la Bible, pour prier plus, etc. Et ce matin, j'aimerais pas nous prendre dans ce sens-là. Peut-être les conclusions le seront, mais j'aimerais nous inviter à regarder un homme qui a chanté sa joie de cette intimité avec Dieu. Et j'espère qu'au travers de ce qu'il nous a laissé, nous puissions nous-mêmes être encouragés dans la manière de cultiver notre attachement à Dieu. La joie d'être dans la présence et dans l'intimité de notre relation avec Dieu. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans le psaume 16, c'est David. David a chanté son intimité, on pourrait dire. Alors le psaume 16, il a une particularité, c'est que il y a une partie du texte qui a été repris bien des siècles après par Pierre lorsqu'il va défendre après la Pentecôte, pendant la Pentecôte, Christ ressuscité. Gardez juste peut-être cela en tête. Pierre va citer une partie de ce psaume pour évoquer Christ ressuscité. Mais regardons, écoutons ce que Dieu nous dit dans ce que David et ce que Dieu nous dit par la bouche de David dans ce psaume extraordinaire. Et que j'espère aussi va nous encourager comme il l'a été pour moi en ce début d'année. Psaume 16, je lis dans la traduction second 21. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, Je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Voilà la parole de Dieu. Je voudrais juste prier pour que le Seigneur vienne nous visiter, nous parler. Seigneur, merci pour cette occasion encore donnée ce matin de t'écouter. Merci pour ce texte que tu as souhaité que l'on ait à notre disposition pour mieux te comprendre, pour mieux comprendre aussi notre relation avec toi. Et je prie que la beauté de ce texte puisse à chacun nous émerveiller. Tu connais nos cœurs, tu connais nos situations, et je prie que tu viennes par ton esprit appliquer ces paroles de vie sur nos cœurs à chacun. Seigneur, je prie que tu gardes ma bouche de ce qui ne reflète pas ta gloire, ce qui ne reflète pas ta vérité. Et c'est dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors vous l'avez entendu, vous l'avez peut-être vu en lisant dans ce texte, mais ce texte est résolument positif. Il y a de la joie, j'ai relevé plus de 16 fois des expressions qui sont résolument encourageantes, le côté positif. Et on voit que où il y a la plus grande joie, David l'exprime dans son intimité, dans sa connaissance de Dieu, dans sa relation qu'il a avec Dieu. C'est résolument encourageant. Et en ce début d'année, je voudrais, oui, notre marche avec le Seigneur, c'est encourageant. Il y a de la joie. Mais, et c'est là le mais, soyons réalistes. Nos vies du quotidien, notre vie peut-être en 2023 est bien loin de ce que David exprime dans ce texte. Il y a des hauts, des bas. Il y a les tracas du quotidien, en tout cas pour moi. Le tableau peut-être de l'avenir qui est devant vous n'est pas si clair, ni agréable. Vous ne savez pas de ce qui vous attend demain. On traverse dans notre monde des situations compliquées. Vous traversez peut-être une situation douloureuse ou récemment vous avez été traversé par des épreuves ou des situations qui vous pèsent. Que ce soit à titre personnel, à titre familial, à titre d'église peut-être. Vous êtes irrité par un tas de situations interpersonnelles, des relations entre nous qui sont compliquées. On vit dans un monde qui court, où tout doit aller vite. On est pressé de toutes parts. Moi, j'ai toujours une liste à plein de choses à faire et j'arrive jamais à la faire. Il y a les défis de la famille, il y a les défis professionnels. On est submergé par tout un tas d'informations, des situations de nos vies qui pèsent. Et la joie de notre intimité avec le Seigneur, elle n'est pas si facile que cela. Vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être distrait, vous avez peut-être un manque de confiance, de la lassitude. Moi, il y a plusieurs de ces réalités-là qui ont été miennes en ce début d'année. Et quand j'ai pris le temps d'étudier ce texte, cela m'a fait du bien, cela m'a encouragé. Et ma prière est vraiment que ce que David nous exprime dans ce texte puisse aussi nous encourager en ce début d'année. On a besoin d'être fortifié par Dieu. On a besoin d'être fortifié par sa grâce et par cette intimité que nous avons en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, 4 éléments que j'aimerais relever dans ce texte qui alimentent, qui répondent à cette question de notre intimité avec Dieu. Premièrement, de se confier en Dieu. Deuxièmement, de bien s'attacher et de bien se détacher. Troisièmement, de déclarer qui est Dieu. Et enfin, de se réjouir de la sécurité que nous avons en Jésus-Christ. Alors, premier point, se confier en Dieu. Alors, on le voit dans ces 2 premiers versets que David, il s'adresse à Dieu. Je dis à l'Éternel. David se confie en Dieu. Il cherche, même littéralement, un refuge. Je cherche refuge en toi. Ça, c'est un vocabulaire qu'on entend dans les psaumes. Il cherche un secours. Il cherche une protection. Il cherche une aide. Il cherche une intervention. Il s'attend à l'intervention de Dieu. Alors, pour ceux qui connaissent la vie de David n'a pas été de tout repos non plus. Mais il sait où s'adresser. il se confie en Dieu. Bien sûr, il affirme aussi, le verset 2, « Qui est Dieu pour lui ? Il est son Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es mon bien suprême. » Alors en anglais, si je devais traduire l'anglais pour cette expression, « Je n'ai rien de bon, je n'ai rien de bon à part toi. » Ça, c'est une déclaration. « Je veux me confier en toi. Il n'y a rien de meilleur en toi. » David, ici, nous fait une déclaration de la toute suffisance de Dieu et de ce qu'il trouve en lui. D'autres psalmistes, par exemple dans le psaume 73, a exprimé « Qui d'autre ai-je au ciel ? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Pour toi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi. » Il y a ce même vocabulaire. « Je me confie en toi. » L'intimité avec Dieu, c'est se confier en Dieu. C'est s'attendre à lui. Mes amis, dans cette relation avec Dieu, il y a de la place pour cet échange entre nous et Dieu. Il y a cette possibilité de nous confier. Il y a cette possibilité de nous exprimer. On a été créés des êtres relationnels. Et Dieu veut une relation avec nous. Dieu veut un échange. On souhaite cultiver une intimité avec Dieu, alors parlons-lui. Bien sûr, la prière est une des occasions de pouvoir nous confier en lui, de pouvoir déposer, nous décharger, nous attendre à lui, crier à lui, pleurer devant lui. David ici nous invite à cette relation intime, à chercher la face de Dieu, à s'attendre à lui, à présenter cette attente confiante. Je l'évoquais tout à l'heure, mais honnêtement, c'est pas facile. Parfois, on attend qu'on est au bout du rouleau pour crier à lui, pour chercher en lui son repos. Souvent, on est à bout de nous-mêmes avant que nous réalisons que c'est qu'à genoux devant le Seigneur, c'est que devant le Seigneur qu'on retrouve ce repos, ce refuge dont mon cœur aspire. Je l'évoquais tout à l'heure, en début d'année, j'étais traversé par une foule de situations qui me pesaient, j'étais abattu, j'avais pas envie, je me rappelle lundi, il y a 15 jours, j'avais pas envie de me mettre à mon bureau et à travailler. J'étais las. Et voilà, le concours de circonstances, je vais travailler ce texte pour les prédications. Et le Seigneur m'a fait du bien de déclarer cela. Alors parfois, on n'a pas nos propres mots, mais le fait de réaliser, de voir comment David nous a laissé ses paroles, on peut les prendre pour nous. Oui, je veux que tu me gardes. Je veux chercher en toi mon refuge. Tu es mon bien le plus suprême. Ayons cette attente confiance, ce tête-à-tête, ce désir de cette relation. Et nous sommes invités à nous emparer. Oui, il est mon Dieu. Et Jésus lui-même a montré combien il avait besoin de se confier en son Père. Et il était submergé aussi de gens qui venaient à lui. Mais il avait besoin de se retirer à l'écart. Il avait besoin de se confier à son Père céleste. Alors, nous pouvons aussi, en tant qu'Église, nous encourager à nous confier en Dieu. C'est ce que Pierre, tout à l'heure, nous a encouragé à faire. Lorsqu'on est rassemblés ici, on est encouragés à lever les yeux ensemble. On ne connaît pas toutes nos situations, mais on veut s'encourager, notre frère, notre sœur, à lever les yeux, à nous confier en Dieu. Déposons ce qui nous tracasse, ce que nous avons besoin de dire à notre Seigneur. Il est là pour nous écouter, ce tête-à-tête. Je suis émerveillé en prenant un peu le temps d'écouter nos frères et sœurs dans des pays qui sont bien sûr, on sait, en difficulté, en souffrance. Par exemple, les frères et sœurs en Ukraine, ils sont traversés par multitude d'incertitudes de la vie, mais ça leur a donné cette envie, comme jamais, de se retrouver par semaine pour se confier en Dieu. Parfois, on a besoin d'être secoué pour lâcher prise et de se dire, Seigneur, je veux chercher seulement toi un secours. Prions, déposons devant Dieu. C'est comme dans une relation de couple, alors c'est sûr, il y a ce quotidien, on communique les uns avec les autres, mais parfois, il y a besoin d'un échange personnel, d'un moment à part. Et ma femme me dit, quand elle veut me parler, elle me dit que je dois pas être en train de faire autre chose, pas en train d'avoir le téléphone sous la main ou d'écouter d'une oreille. Non, elle veut mon attention complète. Confions-nous en Dieu. Échangeons avec lui. Dieu souhaite avoir des moments particuliers avec lui. Et c'est vrai, on a du mal à trouver ces moments particuliers. Je l'évoquais tout à l'heure, on est dans un monde qui court. On a du mal à s'arrêter. J'ai du mal à m'arrêter. J'ai du mal à me retrouver au seul endroit où David exprime il y a son bien le plus suprême. Ça, une paix que les circonstances, le monde et tout ce qu'on fait ne peut pas donner. Deuxième point. David nous montre un attachement et à se détacher. Alors, je ne vous cache pas qu'en étudiant un peu ce texte et en relisant ces textes, je me suis dit, j'ai eu du mal à connecter ces deux textes avec ce qu'il exprimait. Mais en même temps, j'ai vu qu'il y a tout ce vocabulaire de l'attachement. Et en fin de compte, c'est logique. David exprime son bonheur de s'attacher à Dieu. Et du coup, il exprime sa raison, et c'est le verset 3, son désir de s'attacher avec des personnes qui s'attachent aussi à Dieu, qui ont cette même vision de Dieu, qui ont cette même confiance en Dieu. Vous voyez la logique ? Il est encouragé à s'entourer d'hommes qui ont cette même orientation. Il évoque des saints, des hommes pieux. Mes amis, aimer Dieu, c'est aussi aimer ceux qui aiment Dieu. C'est aimer sa famille. C'est étroitement, c'est aimer son peuple. Avec cependant, du verset 4, de s'éloigner de ceux, en fait, qui sont idolâtres, de ceux qui ne prennent pas Dieu en considération. Deux versets où David, c'est versets 3 et 4, où David oppose son amour pour le peuple de Dieu et son rejet, son dédain de l'idolâtrie. Jésus lui-même a exprimé cet attachement envers ses amis, envers ses disciples. Il les a dit ses amis, justement. Ce besoin des frères et sœurs. L'intimité avec Dieu, mes amis, se cultive aussi dans votre amitié, je pourrais dire, dans votre amour pour ceux qui aiment Dieu. En fait, c'est toute la question de ce qu'on avait déjà vu de la place de l'Église, la place des frères et des sœurs autour de vous. Vous voulez grandir dans votre intimité avec le Seigneur ? Alors attachez-vous aussi avec des hommes et des femmes qui ont envie de grandir avec le Seigneur. Et j'aimerais nous mettre au défi, si vous doutez de l'importance des frères et des sœurs, de prendre le temps de méditer tous les textes qui évoquent ces bénédictions, ces grâces qui sont déversées sur l'enfant de Dieu dans la relation fraternelle, dans ce que les uns et les autres peuvent apporter dans votre marche avec Dieu. Mais mes amis, c'est tellement plus facile de se retirer, de se mettre à l'écart quand on se sent pas bien. Lorsque surviennent les difficultés, on préfère se glisser sous la couette. On ne préfère ne pas parler aux autres. On préfère rester à distance. Mais mes amis, la parole de Dieu nous montre que cette intimité avec le Seigneur va être cultivée aussi par cet attachement, par cet amour que nous allons nous porter les uns envers les autres. Et David l'exprime dans ces passages. Ils sont l'objet de toute mon affection. J'aime Dieu, mais j'aime aussi mon prochain. Et pour preuve, vous avez probablement tous déjà expérimenté cette situation. Vous avez été peut-être invité pour une réunion d'église, une réunion de prière. Même quelqu'un vous a invité, un frère ou une sœur, une famille, pour vivre un moment d'hospitalité et vous vous avez traîné un peu les pieds. Pour plusieurs raisons, peut-être la fatigue, la semaine a été chargée, vous l'avez peut-être pas noté au programme, vous vous êtes dit « Oh non ». J'ai d'autres choses à faire, j'aimerais tellement de choses. Mais il se trouve que vous y êtes allé, que le Seigneur vous a encouragé à passer. Vous avez vécu ce temps, ou cette hospitalité, ou ce temps de vie d'église, ou cette rencontre, ou cette groupe de maison, ou cette réunion de prière, même à deux. Et en fait, en y sortant, vous vous êtes dit, mais pourquoi j'ai eu tellement de mal à y aller? Cet échange m'a fait tellement de bien. Ce que j'ai entendu m'a fait tellement de bien. Ce chant m'a encouragé. Cette conversation à l'issue du culte m'a fait du bien. Il y a du bien dans la relation fraternelle. Et cela affermit, cela cultive, cela encourage notre intimité avec le Seigneur. Et David met ce parallèle de l'attachement aux autres aussi avec ce désir de se détacher de tout ce qui est contraire à l'attachement unique à Dieu. Là, il est question d'idolâtrie. Alors peut-être pour David, c'est assez clair, hein. Il y avait des idoles qui étaient sculptées à droite à gauche, il y avait des cultes qui étaient donnés, on offrait des sacrifices, on versait le sang d'une bête. C'est peut-être plus clair. Aujourd'hui, c'est peut-être tellement plus subtil de se dire, mais c'est où les idoles de nos cœurs? C'est où les attachements qui sont plus importants que Dieu? C'est où notre épanouissement? C'est où qu'on cherche un réconfort, un appui? Mes amis, on a besoin des uns et des autres pour nous garder de faux dieux, de fausses idoles, de faux attachements. Et le matin, le dimanche matin, on se retrouve pour nous encourager à nous attacher uniquement à Dieu, à centrer nos regards sur la personne de Christ. Dans l'Église, nous sommes là à exhorter à servir l'unique, l'unique Dieu et à nous détacher de tout ce qui peut déshonorer Dieu. On voit que dans le cœur de ce passage, versets 5 à 7, c'est le troisième point, David nous appelle à déclarer qui est Dieu. On entend dans cette déclaration que pour David, son trésor, c'est Dieu. Et voilà une marque d'une intimité. Son trésor, c'est Dieu. Je relis les versets extraordinaires du verset 5 à 7. L'Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. Là, David est en train de déclarer qui est Dieu. L'Éternel est le bien le plus précieux qu'il a. Que tout ce qui contient cette terre, c'est Dieu. Que n'importe quel héritage. Et je trouve on a un peu de vocabulaire gastronomique. Ma part, la coupe où je bois. David est en train de dire la meilleure nourriture qui soit. C'est mon Dieu. La meilleure boisson qui soit, c'est mon Dieu. Son bien le plus précieux, David est roi, David possède un royaume, un palais, des terres, des sujets, des serviteurs, etc. Mais son bien le plus précieux auquel il veut s'attacher, c'est son Dieu. Et même la nuit, quand ça cogite, il réalise que sa sagesse, c'est cela qui l'instruit. Dieu connaît, David connaît son Dieu. Et il le déclare. On a tout ce registre, un peu de l'adoration. Il reconnaît qui est Dieu dans sa vie. Déclarons qui est Dieu. Et Jésus-Christ a fait cette même attachement, cette même déclaration envers son Père tout au long de sa vie. Je lis par exemple Jean 4, 34, Jésus leur dit « Ma nourriture, même vocabulaire hein, de la nourriture, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus cherche le conseil de son Père. La sagesse dont il a besoin, et elle est sa nourriture. Dieu nous a bien fait, mes amis. On a la notion du goût, la notion des besoins, la notion de plaisir. Alors, on est sorti des fêtes. Peut-être certains ont des anniversaires en début d'année, donc ça prolonge un peu. Mais on raffole de bonne nourriture, de bons plats, préparés en famille, de bons petits gâteaux, la bûche, un bon vin. Et parfois, on en redemande. On a tous apprécié peut-être le bon repas d'un parent, d'une maman, etc. Et on en redemande, des fois on en abuse, mais là, David est en train de déclarer mon plus grand plaisir, ma plus grande joie, ma nourriture dont j'ai besoin, c'est mon Dieu. C'est Dieu. Alors est-ce que on peut déclarer ça dans nos quotidiens ? Je veux dire, le pain dont j'ai besoin, la bûche dont j'ai besoin, je caricature, mais c'est Dieu. C'est qui est Dieu, c'est ce qu'il a fait. Alors bien sûr, pour pouvoir dire qui est son Dieu, il faut le connaître. Alors la boucle est bouclée. Hein. Pour le connaître, on a besoin de s'encourager, de s'enseigner. On a besoin de prendre du temps de se dire, mais David, il dit ça de Dieu. Est-ce que je l'expérimente dans ma vie ? Apprenons à contempler Dieu, par sa parole par exemple. Mais mes amis, je me dis, punaise, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis tellement loin du compte. Mais on voit que David nous encourage à déclarer Dieu. Je réalise que mon confort, mon bien-être, mon bien, c'est parfois pas mon Dieu. Je l'exprimais en illustration récemment encore. Je ne sais pas si je passe pas tous les jours, c'est ma femme qui vous le dirait, mais à râler à cause de notre canapé. Ça fait des années que je me dis qu'il faudrait le changer, il n'est pas confortable. Et je me dis, si on en avait un qui serait confortable, mon quotidien serait tellement mieux quand je m'insérais dedans. Parfois, c'est basique, c'est banal, mais parfois, il y a ces choses-là du quotidien qui nous font gâcher toute la journée ou toute la soirée, parce que nos attachements ne sont pas en Dieu. On est loin du compte, mon confort, mes relations, ma vie sociale, ma vie professionnelle sont parfois mes trésors. Et David, il dit, son Dieu, c'est son trésor. On a un coffre-fort à disposition, mais pourtant, on se sert à d'autres endroits. L'homme ne vivra pas de pain seulement, on le sait, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de déclarer qui est Dieu. On a besoin de nous le déclarer l'un l'autre. Que Dieu est bon, que Dieu est notre bien le plus suprême, que Dieu est notre trésor, etc. Et le culte est là, je l'ai déjà dit, mais est là pour exprimer ensemble qui est Dieu, les vérités sur Dieu, notre joie de la personne de Dieu, que nous avons faim et soif de lui, que nous voulons chercher ensemble sa direction. Nous sommes appelés à méditer les vérités de la parole de Dieu comme des trésors. Parce que c'est une parole de vie, une parole de réconfort, une parole qui redresse, une parole toute puissante pour consoler, pour guérir. Elle est nécessaire, elle est une lampe sur notre sentier. Sa parole nous affermit, sa parole nous prépare au coup dur, sa parole nous prépare au rouleau compresseur des épreuves. Et je trouve que David termine son hymne par, justement encore là, ses certitudes, il y a toute la joie. Et c'est le quatrième point que je vous propose de voir, il se réjouit de Christ, notre sécurité. Alors je suis là justement dans la partie du texte que Pierre, l'apôtre Pierre, reprend lors de la Pentecôte pour parler de Christ ressuscité. Mais là, David n'est pas à la période de Christ ressuscité. Mais regardons la force des propos de David qui regarde à l'avenir. Et regardez comment il regarde à l'avenir. Verset 8, je relis, « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie. Et mon esprit dans l'allégresse, même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. » Qu'est-ce qu'il fait David dans ces quelques lignes ? Il exprime toute sa confiance d'avoir l'Éternel à ses côtés, à sa droite. David sait que Dieu est son avocat, son défenseur, celui qui prend soin de lui, qui plaide sa cause. Et c'est pour cela qu'il est dans la joie. David nous exprime ici toute son assurance que sa vie, elle est en protection, que les soins de son Dieu sont envers lui et qu'il peut voir l'avenir avec confiance et assurance. Les défis de nos vies, je l'évoquais en intro, le récit de la vie de David montre que sa vie a été à plusieurs occasions menacée. Sa vie, on a souhaité à sa vie même. Mais on le voit dans de nombreux psaumes qu'il place sa confiance que Dieu ne l'abandonnera pas, que Dieu est sa sécurité. Et ça va même au-delà de simplement sa confiance dans ce ici-bas, vous le voyez. Il y a sa confiance dans l'œuvre de Dieu, que sa relation intime qu'il a avec Dieu ne va même pas prendre fin à son dernier souffle. Il y a toute la dimension de la sécurité éternelle. Son corps ne connaîtra pas la décomposition. David exprime sa confiance dans la vie éternelle. C'est ce que nous sommes appelés à faire en tant que disciples. On a embrassé le salut, on a reçu le salut, on a découvert l'œuvre de Christ et ça nous a assuré une sécurité éternelle en raison de l'œuvre de Christ. Mais ici, David n'a pas Christ. David n'a pas encore toute la compréhension que nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir de l'œuvre de Christ. Et c'est pour ça que Pierre, il utilise ce passage pour le plaquer sur ce que Christ a fait. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et on voit qu'il y a l'entièreté de la personne qui est comprise. Il y a la question du corps, il y a la question du cœur. David a une pleine confiance que son corps, que son cœur est en sécurité entre les mains de son Dieu. Une sécurité éternelle. Et cela lui donne de la joie. Cela cultive son intimité avec Dieu. Alors pour nous aussi, mes amis, ce matin, ce passage devrait nous encourager à orienter notre regard sur Dieu qui est ressuscité, sur l'œuvre de la croix, notre source ultime de sécurité éternelle. Et on peut l'exprimer dans une joie confiante qui devrait nous donner la banane, la pêche, l'assurance de notre quotidien face à la mort. On connaît tous des périodes de deuil dans nos familles. Nos propres corps nous rappellent à cette réalité-là peut-être. Face à la dégradation de notre corps, on se sent limité quand on prend de l'âge. Mais exprimons comme David cette joie, cette confiance inébranlable dans l'œuvre et dans le salut en Jésus-Christ. Où est notre espoir ? Où est notre confiance ? David nous encourage à le déposer dans celui qui plaide en notre faveur. La vie dans ce monde déchu n'est pas facile. On ne sait pas ce que 2023 nous réserve à chacun. Mais nous pouvons et devons nous encourager à nous réjouir de l'espérance ultime, inaltérable, durable, éternelle, de l'œuvre et de la personne de Christ, accordée par Christ. La perspective est devant nous, une belle perspective. Il y a le soleil qui se lève, on pourrait dire. Alors on peut cultiver dans ce monde des illusions de paix, des illusions de guérison, un soulagement qui ne serait que passager, des espoirs qui sont peu durables, les 3% de notre livret A. Il y a plein de petites choses, mais qui sont éphémères. Elle est où notre sécurité éternelle ? Ayons des regards bien orientés. C'est ça, cette intimité avec Dieu qui sait aussi où fixer son regard et qui se façonne dans cette intimité avec son Père. J'ai constamment l'Éternel devant moi, nous dit David au verset 8. Alors on est au début de l'année, on va probablement affronter des tempêtes, des turbulences. Mais que l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, que nous pouvons déclarer dimanche après dimanche quand on prend la Sainte Cène, puisse fonder notre sécurité pour cette année, notre assurance, puisse fonder nos pas. Alors je termine. Vous rappelez la question, qu'est-ce qui va nous aider à grandir, à fonder notre foi, notre intimité avec le Seigneur? Alors, comme David, saturons notre vie de conversations, de prières pour nous confier en Dieu. Méditons les paroles, méditons les vérités de l'Écriture sur la personne de Dieu, sur l'œuvre de Christ, pour déclarer avec force qui est Dieu. Attachons-nous, aimons-nous les uns et les autres, pour nous aider à marcher pour la gloire de Dieu, pour nous aider à rejeter, à se détacher de tout ce qui nous lore pas, de tout ce qui nous freine. Et réjouissons-nous du salut. Réjouissons-nous de cette espérance inébranlable qui repose non pas sur nos circonstances, sur notre capacité à tenir, mais sur notre Sauveur bien-aimé, vivant à la gloire de Dieu. Voilà le terreau de notre intimité avec Dieu. Et qui, pour David, a été profondément bienfaisante. L'intimité avec Dieu, elle est bienfaisante. Elle est remplie d'espérance, elle est remplie de joie, de sécurité, d'assurance, d'un trésor. Et c'est mon désir pour chacun de nous, et je le prends pour moi en premier. De vouloir m'attendre à Dieu, de vouloir me confier en lui, de vouloir m'attacher à lui, de vouloir déclarer qui est Dieu, et qu'il a tout droit sur ma vie. Alors, comme question peut-être, peut-être quelle habitude, quel changement devons-nous peut-être cultiver, remettre en lumière pour mieux connaître, mieux nous attacher, mieux écouter, mieux se réjouir de la personne et de l'œuvre de Christ. Paul a déclaré « Christ est ma vie ». On est dans le même registre que ce que David nous laisse dans ce psaume 16. Rien ne peut remplacer ce temps d'être avec son Dieu. Vous dites peut-être « j'ai pas le temps », alors que c'est notre trésor. Il y a peut-être un peu de ménage à faire alors. Hier, en travaillant ce texte, je suis tombé juste sur une citation, je la laisserai. C'est de Piper qui parle de sa joie qu'il a en Dieu et il dit « On n'a pas été fait pour être quelqu'un, mais on a été créé pour connaître quelqu'un et être heureux de le connaître parce que c'est la plus grande personne du monde qui mérite d'être connue et parce que c'est notre ami. » Dieu s'est fait chair, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ et c'est cette relation, il veut être notre ami, il veut être notre Père. Alors que ce soit vraiment quelque chose que cette année encore, nous puissions ensemble cultiver, de découvrir le bienfait de connaître l'ami le plus fidèle.